Salut les cultistes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau livre audio de Frank Belknap Long et qui sera Les chiens de Tyndalos. Alors je vais profiter de cette vidéo pour faire un encart publicitaire absolument indigne et faire un petit peu d'autopromotion. Alors pour ceux que ça n'intéresserait pas, la vidéo est chapitrée et vous pouvez aller passer directement au livre audio si vous le souhaitez. Pour ceux qui seraient restés, la promotion de quoi exactement? Eh bien, il se trouve que j'en avais parlé donc dans un live précédent. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un auteur amateur, bien sûr. Et vous trouverez sur Amazon, puisque j'ai utilisé un système d'auto-édition, vous trouverez sur Amazon mes nouvelles sur deux types d'éditions différentes. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous aurez par exemple ceci, le ventre de la montagne et l'orgue du diable sur le même type d'édition, donc des livres format assez réduit, assez pratique à trimballer avec soi. Chacun de ces deux livres contient deux histoires, toutes les histoires sont indépendantes les unes des autres bien sûr. Pour ce qui est par exemple de l'orgue du diable, vous aurez donc la nouvelle la plus massive qui est l'orgue du diable et également un conte qui s'appelle La fille du sorcier qui est beaucoup plus court. Donc pour vous la faire brève, l'orgue du diable c'est en fait l'histoire d'un équipage d'un navire de guerre anglais pendant les guerres napoléoniennes, qui est chargé de poursuivre un navire français, le Prométhée, parce que dans ses cales, le navire français aurait apparemment un artefact étrange qui pourrait lui permettre de gagner la guerre. Pour ce qui est de l'histoire de la fille du sorcier, c'est un conte qui, je préviens les plus sensibles, est assez sombre, assez dark, et pourrait peut-être trigger certaines personnes. Voilà, je vous le dis pour être clair avec vous et en toute honnêteté. Pour ce qui est de l'autre livre, si j'arrive à vous le montrer, le ventre de la montagne, donc, pareil, donc c'est un corpus, vous avez deux textes indépendants l'un de l'autre. Le ventre de la montagne, c'est une histoire qui tourne autour donc, d'une expédition allemande de la fin des années 30 qui s'est rendue en Himalaya. Alors ceci est un fait historique, il y a véritablement eu une expédition allemande dirigée par Ernst Schaeffer qui était allé effectivement visiter le toit du monde. Et dans cette histoire, je rajoute une autre équipe, une autre expédition placée sous le sceau du secret de la SS, qui, elle, est partie enquêter sur la présence étrange de tablettes d'argile couvertes d'un étrange langage, un proto-cunéiforme très ancien, plus ancien que ce que les historiens connaissent. Et de là, l'aventure commence. Dans la deuxième histoire que vous trouverez là-dedans, ça s'appelle Haute Faye, qui elle aussi est basée sur des faits réels, à savoir l'affaire de Haute Faye. Si vous ne connaissez pas, je vous conseillerais d'aller éventuellement voir ce que ça pourrait donner sur internet. C'est une histoire qui est assez sombre, assez gore même, dans laquelle je me suis amusé à réimplanter des éléments de fantastique, parce que c'est ça qui est drôle après tout. Donc vous avez ces deux livres sur ce format-là plutôt réduit, plutôt facile à transporter. Mais comme je suis moi-même un amateur de collectibles, de petits collectibles rigolos, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller un petit peu plus loin et de sortir ceci. Donc ceci, c'est l'intégrale, les quatre nouvelles que je viens de vous citer. Ce livre s'appelle donc c'est l'orgue du diable, l'intégrale des nouvelles. C'est un format plus costaud, plus gros. C'est un livre relié, les deux autres précédents étant des livres brochés. Vous trouverez donc dedans les quatre histoires. Vous aurez donc de toute façon donc dans la description de la vidéo, vous aurez de toute façon le lien pour directement accéder à ma page d'auteur sur Amazon. Comme ça, vous y trouverez tous les livres. Et dernièrement, si jamais d'aventure vous avez lu ces livres et que, on sait pas, peut-être que ça peut vous plaire, on sait jamais, après tout, hein, comme diraient les bronzés, vous en trouverez un autre dans sur cette page d'auteur, vous trouverez un autre livre qui s'appelle L'Étincelle. Alors celui-ci n'a rien à voir. dans le style, dans le genre, ça n'a rien à voir. L'Étincelle, en fait, c'est un livre qui est très court, hein, c'est même pas une centaine de pages, qui est en fait une uchronie. Qui est une uchronie que j'ai en fait placée à la date au moment où je l'écrivais. C'est-à-dire que il me semble que j'avais commencé la rédaction de ça, enfin j'avais déjà posé les grandes lignes et les bases, j'avais déjà l'idée dans la tête, mais au moment où je fais la rédaction finale, il me semble qu'on était le, c'était le début février, le 7 février exactement, et tout se passe en fait comme si j'écrivais en temps réel. Mais ça n'a rien à voir avec un récit fantastique ou dark fantasy ou aventure ou quoi que ce soit. C'est un, en fait, un non-événement puisqu'il n'a jamais eu lieu, qui m'avait vraiment fait beaucoup peur pendant les manifestations de Gilets jaunes, à savoir un policier qui avait braqué en fait son pistolet sur des manifestants, qui n'a pas tiré. Encore heureux, mais ce sont ces genres de moments que vous voyez au même titre que je me souviens où j'étais le 11 septembre, je me souviens parfaitement où j'étais quand j'ai vu cette image, et je me rappelle surtout de la question que je me suis posée à ce moment-là, à savoir, et si jamais il tire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce livre, ce petit truc, c'est un petit peu c'est l'expression de ça, l'expression de cette crainte. On était dans un tel climat de guerre sociale que au moment où je vois ce policier tirer son arme, je me suis dit, si jamais il tire, c'est fini, c'est la guerre. Et ce petit truc est né en fait de cette idée. Pour ceux qui ne souhaiteraient toutefois pas acheter mes livres. La page Tipeee est désormais ouverte hein, si vous souhaitez m'aider hein, à développer ma chaîne. Chaîne qui d'ailleurs prend de plus en plus d'abonnés avec le temps, hein, puisque en fin d'année, aux alentours de Noël, on tournait à 400 abonnés. On a dépassé les 600 hier. Mais dépassé d'un coup, hein, c'est-à-dire qu'on était à 595, 596, un truc comme ça, il y a 2 jours. Et littéralement, du jour au lendemain, je suis passé à 611 abonnés, comme ça, pour la blague. Donc, merci, parce que c'est encore à vous que je le dois. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de vos retours également, que je regarde avec beaucoup d'intérêt et de curiosité, et parfois un peu de rigolade aussi, parce que certains de vos commentaires me font vraiment craquer. Si vous souhaitez aider la chaîne, hein, la page Tipeee est désormais ouverte. Vous trouverez maintenant systématiquement le lien de la page Tipeee dans les descriptions de vidéos. Il n'y a pour l'instant qu'un seul type de don, c'est 3 euros. C'est tout ce que j'ai mis pour l'instant parce que je cherche encore des contreparties sympas à pouvoir vous envoyer. Pour l'instant, j'en ai pas. Je suis un peu à sec. Donc il y a un seul don possible si vous souhaitez m'aider. Après, si vous êtes curieux de mes créations littéraires, vous trouverez le lien également dans la description. Et éventuellement, si vous êtes curieux de mes créations musicales, elles sont sur la page, elles sont sur ma chaîne YouTube, mais vous pourrez aussi les trouver dans le lien que je mettrai dans la description. D'ici là, je vous souhaite un très bon matinée, soirée, journée, et un bon moment avec donc notre auteur Frank Belknap-Long et les chiens de Tindalos. À bientôt. Les chiens de Tindalos par Frank Belknap-Long. Je suis heureux que vous soyez venu, dit Chalmers. Il était assis près de la fenêtre et son visage était très pâle. Deux longues bougies pleuraient près de son coude et projetaient une lueur ambrée et souffreteuse sur son long nez et son menton un peu fuyant. Chalmers ne supportait pas qu'il y eût quoi que ce fût de moderne dans son appartement. Il avait l'âme d'un ascète médiéval et préférait les manuscrits enluminés aux automobiles, le rictus des gargouilles de pierre aux radios et aux machines à calculer. Traversant la pièce pour gagner le divan qu'il avait débarrassé pour moi, je jetai un coup d'œil sur son bureau et m'étonnai de découvrir qu'il était en train d'étudier les formules mathématiques d'un célèbre physicien contemporain et qu'il avait couvert plusieurs feuilles d'un mince papier jaune de curieuses figures géométriques. Einstein et John Dee sont d'étranges auteurs de chevet, remarquai-je, comme mon regard allait des courbes aux 60 ou 70 ouvrages curieux que comprenait son étrange petite bibliothèque. Plotin, Emmanuel Moscopulus, saint Thomas d'Aquin et Phrénicle de Bessie se côtoyaient sur les sombres rayons d'ébène, tandis que les chaises, la table et le bureau étaient jonchés de libelles consacrées à la sorcellerie, à l'envoûtement et à la magie noire telle qu'ils étaient pratiqués au Moyen-Âge, ainsi qu'à toutes ces choses valeureuses et enchanteresses que le monde moderne a répudiées. Chalmers me sourit de manière engageante et me tendit une cigarette russe sur un plateau curieusement gravé. « C'est aujourd'hui seulement, me dit-il, que nous découvrons que les vieux alchimistes et les sorciers avaient vu juste 2 fois sur 3, alors que nos biologistes et nos matérialistes se trompent 9 fois sur 10. » « Vous vous êtes toujours moqué de la science moderne, répliquai-je, sur un ton légèrement impatient. « Du dogmatisme scientifique, simplement, répondit-il. J'ai toujours été un rebelle, un champion de l'originalité et des causes perdues. C'est pourquoi j'ai choisi de répudier les conclusions des biologistes contemporains. « Et Einstein ?» demandai-je. « Un prêtre des mathématiques transcendantales, murmura-t-il avec respect. « Un mystique profond et un explorateur du grand soupçonné. » « Vous ne méprisez donc pas totalement la science ?»« Bien sûr que non, affirma-t-il. Je me méfie simplement du positivisme scientifique des 50 dernières années. Le positivisme de Haeckel, de Darwin et des messieurs Bertrand Russell. Je crois que les biologistes ont lamentablement échoué dans leur tentative d'expliquer du mystère de l'origine et de la destinée humaine. « Donnez-leur le temps, ripostai-je. » Les yeux de Chalmers brillèrent. « Mon ami, fit-il à voix basse. Votre jeu de mots est sublime. Donnez-leur le temps. C'est précisément ce que je voudrais faire. Et le biologiste moderne se moque du temps. Il en a la clé, mais il refuse de s'en servir. Que savons-nous du temps, à vrai dire? Einstein estime qu'il est relatif. Il peut être interprété en termes d'espace, d'espace courbe. Mais faut-il que nous en demeurions là? Au moment où les mathématiques nous font défaut, nous pouvons-nous poursuivre en faisant appel à l'intuition ? Vous vous engagez sur un terrain dangereux, répliquai-je. C'est là un piège qu'un véritable chercheur s'efforce d'éviter. C'est d'ailleurs pourquoi la science moderne a progressé avec tant de lenteur. Elle n'accepte rien qui ne puisse être démontré, mais vous... Je prendrai du haschich, de l'opium, toutes sortes de drogues. Je me ferai l'émule des sages de l'Orient. Et alors, peut-être, appréhenderai-je...
Quoi ?
La quatrième dimension. Ce sont des sottises théosophiques, peut-être, mais je crois que les drogues amplifient la conscience humaine. William James le croyait aussi, et j'en ai découvert une nouvelle. Une nouvelle drogue ? Les alchimistes chinois s'en sont servis il y a des siècles, mais elle est virtuellement inconnue en Occident. Ses propriétés occultes sont stupéfiantes. Grâce à elle et aux connaissances mathématiques que je possède, je crois qu'il m'est possible de reculer dans le temps. Je ne comprends pas. Le temps n'est que votre perception imparfaite d'une autre dimension de l'espace. Le temps et le mouvement sont l'un et l'autre des illusions. Tout ce qui a existé depuis le début du monde existe à l'heure actuelle. Les événements qui se sont produits il y a des siècles sur cette planète continuent à exister dans une autre dimension de l'espace. Les événements qui se produiront dans des siècles existent déjà. Nous ne pouvons percevoir leur existence parce que nous sommes incapables de pénétrer dans la dimension de l'espace qui les contient. Les êtres humains, tels que nous les connaissons, ne sont que de simples fractions. Des fractions infiniment petites d'un tout énorme. Chaque être humain est lié à toute la vie qui l'a précédé sur cette planète. Tous les ancêtres font partie de lui. Seul le temps le sépare de ses devanciers et le temps est une illusion. Il n'existe pas. « Je crois que je comprends, murmurai-je. Il suffira pour mon dessein que vous formiez une idée très générale de ce que je souhaite atteindre. Je désire arracher de mes yeux le voile des illusions dont le temps les a couverts pour voir le commencement et la fin. »«
Et vous croyez que cette nouvelle drogue va vous y aider ? » ?»«
J'en suis certain. et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai l'intention de prendre cette drogue dès maintenant. Je ne peux plus attendre. Il faut que je voie. » Une lueur étrange s'était allumée dans ses yeux. « Je vais reculer. Reculer dans le temps. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée. Quand il se tourna vers moi, il tenait dans le creux de la main une petite boîte carrée qu'il avait prise sur la tablette. « J'ai là 5 pilules de la drogue Liao. » Le philosophe chinois Lao Tzu l'utilisait, et c'est sous son influence qu'il aurait eu la vision du Tao. Le Tao est la forme la plus mystérieuse du monde. Il cerne et anime toute chose. Il comprend l'univers visible et tout ce que nous appelons la réalité. Celui qui appréhende les mystères du Tao voit clairement tout ce qui a été et tout ce qui sera. Allons donc. Le Tao ressemble à un grand animal allongé, immobile, et son grand corps enferme tous les mondes de notre univers, le passé, le présent et le futur. Nous ne voyons que des parties de ce grand monstre à travers une fente que nous appelons le temps. En m'aidant de cette drogue, je vais élargir la fente. Je contemplerai la grande figure de la vie, la grande bête, étendue dans sa totalité. Et que voulez-vous que je fasse? Que vous observiez, mon ami. Que vous observiez et que vous preniez des notes. Si je recule trop loin, il vous faudra me rappeler à la réalité. Vous pourrez me rappeler en me secouant avec violence. Si j'ai l'air de ressentir une douleur physique aiguë, il vous faudra me rappeler aussitôt. Chalmers, je voudrais bien que vous ne tentiez pas cette expérience. Vous prenez des risques terribles. Je ne crois pas qu'il existe de 4e dimension et je refuse tout net de croire en l'existence du Tao. En outre, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous expérimentiez des drogues inconnues. Je connais les propriétés de cette drogue. Je sais précisément comment elle affecte la bête humaine. Et je connais ses dangers. Le risque ne réside pas dans l'absorption de la drogue. La seule crainte que j'éprouve, c'est de m'égarer dans le temps. Vous comprenez, je vais aider la drogue. Quand j'avalerai cette pilule, j'accorderai toute mon attention aux symboles géométriques et algébriques que j'ai relevés sur ce papier. Il souleva la feuille couverte de figures qu'il avait posée sur ses genoux. Je préparerai mon esprit à un voyage dans le temps. J'approcherai la 4e dimension avec un esprit conscient avant de prendre la drogue. Ce qui me permettra d'user de pouvoirs occultes de perception. Avant de pénétrer dans le monde de rêve du mystique de l'Orient, j'acquerrai toute l'assistance mathématique que peut m'offrir la science moderne. Cette connaissance mathématique, cette approche consciente d'une véritable appréhension de la 4e dimension, complétera l'œuvre de la drogue. La drogue m'ouvrira de nouveaux horizons stupéfiants. La préparation mathématique me permettra de les comprendre intellectuellement. J'ai souvent eu conscience de l'existence d'une 4e dimension, en rêve, et cela de façon affective, intuitive. Mais je n'ai jamais été capable de me souvenir, une fois éveillé, des splendeurs occultes qui m'avaient été brièvement révélées. Avec votre assistance, pourtant, je crois que je vais pouvoir les retrouver. Vous allez noter tout ce que je dirai quand je serai sous l'influence de la drogue. Quelle que soit l'étrangeté ou l'incohérence de mes paroles, vous n'omettrez rien. Quand je me réveillerai, je serai peut-être en mesure de fournir la clé de tout ce qui vous semblera mystérieux ou incroyable. Je ne suis pas certain de réussir, mais si j'y parviens... Ses yeux avaient un éclat étrange. Le temps n'existera plus pour moi. Brusquement, il s'assit. Je vais commencer tout de suite cette expérience. Allez vous placer près de la fenêtre là-bas, s'il vous plaît, et observez-moi. Vous avez un stylo? Je hochai la tête, l'air sombre, et tirai un Waterman vert pâle de la poche intérieure de ma veste. Et un bloc, Franck? Je grognai et sortis un agenda. Je désapprouve au plus haut point cette expérience, murmurai-je. Vous prenez un risque effrayant. Ne soyez ni aussi craintif ni aussi stupide, m'admonesta-t-il. Rien de ce que vous pourrez me dire ne m'arrêtera, désormais. Je vous prie de garder le silence tandis que j'étudie ces figures. Il prit sa feuille en examina les figures avec attention. Je regardai la pendule posée sur le dessus de la cheminée qui égrenait les secondes, et une angoisse étrange m'étreignit le cœur au point que je suffoquais. Brusquement, la pendule se tut, et c'est à cet instant précis que Chalmers avala la drogue. Je me levai vivement et m'approchai de lui, mais ses yeux me supplièrent de ne pas intervenir. « La pendule s'est arrêtée, » murmura-t-il. « Les forces qui la contrôlent approuvent cette expérience. Le temps s'est arrêté et j'ai avalé la drogue. Je prie le Seigneur afin qu'il fasse que je ne m'égare pas. » Il ferma les yeux et se renversa sur le sofa. Tout le sang semblait avoir quitté son visage et sa respiration était devenue pénible. Il était clair que la drogue agissait avec une rapidité extraordinaire. « Il commence à faire sombre, » dit-il tout bas. « Notez cela. Il commence à faire sombre et les objets de cette pièce sont en train de disparaître. Je les discerne encore un peu à travers mes paupières, mais ils s'évanouissent rapidement. » Je secouai mon stylo pour y faire venir l'encre et écrivis rapidement en sténo, tandis qu'il poursuivait sa dictée. « Je quitte la pièce. Les murs s'évanouissent et je ne vois plus aucun des objets. Votre visage pourtant est encore visible, j'espère que vous écrivez. Je crois que je vais faire un grand saut dans l'espace. Ou peut-être vais-je faire un saut dans le temps, je ne sais pas, tout est sombre, indistinct. » Il demeura assis quelques instants, en silence, la tête sur la poitrine. Soudain, il se raidit et ses paupières s'ouvrirent. « Dieu du ciel, je vois !» Il s'était redressé et penché en avant, fixé, tendu le mur d'en face. Je savais pourtant qu'il regardait au-delà de ce mur et que les objets de la pièce n'existaient plus pour lui. « Chalmers, Chalmers, dois-je vous réveiller ?»« Non. Je vois tout. Les milliards de vies qui m'ont précédé sur cette planète se déroulent devant moi en ce moment. Je vois des hommes de tous les âges, de toutes les races et de toutes les couleurs. Ils se battent, ils tuent, ils bâtissent, ils dansent, ils chantent. Ils sont assis autour de feux rudimentaires, dans les déserts perdus et gris, et ont pris l'air à bord de monoplans. Ils voguent sur les mers avec des canots d'écorce et sur d'énormes bateaux à vapeur. Ils peignent des bisons et des mammouths sur les murs sombres des cavernes et couvrent d'immenses toiles d'étranges dessins futuristes. J'assiste aux migrations de l'Atlantide, j'assiste aux migrations de la Lémurie. Je vois des races anciennes, une étrange horde de nains noirs qui progressent irrésistiblement à travers l'Asie. Des hommes de Néandertal, la tête baissée, les genoux pliés qui parcourent obscène l'Europe. J'observe le déferlement des Achéens sur les îles grecques et les premiers balbutiements de la culture hellénique. Je suis à Athènes et Périclès est jeune. Je me trouve sur le sol de l'Italie. J'assiste à l'enlèvement des Sabines. Je marche avec les légions impériales. L'angoisse et l'admiration me font trembler, tandis que défilent les énormes étendards et que le sol frémit sous les pas des astatis victorieux. Un millier d'esclaves nus se prosternent devant moi tandis que je passe dans une litière d'or et d'ivoire, traînée par des bœufs de Thèbes, noirs comme la nuit, que des jeunes filles couvertes de fleurs crient « Ave César », que je salue des signes de tête et que je souris. Je suis à mon tour esclave sur une galère mort. Je vois s'ériger une grande cathédrale. Pierre par pierre, elle s'élève et pendant des mois, des années, je suis là et je la regarde. Chaque pierre venir s'insérer à sa place. On me brûle sur une croix la tête en bas, dans les jardins parfumés du thym de Néron. J'observe avec amusement et mépris les bourreaux à l'œuvre dans les chambres de l'Inquisition. Je marche dans le plus saint des sanctuaires. Je pénètre dans les temples de Vénus. Je m'agenouille en adorateur devant la Magna Mater et je jette des pièces de monnaie sur les genoux nus des courtisanes sacrées qui sont assises, le visage voilé dans les jardins de Babylone. Je me faufile dans un théâtre élisabétain et j'applaudis le marchand de Venise avec la canaille empestée qui m'entoure. J'avance avec Dante dans les rues étroites de Florence. Je rencontre la jeune Béatrice et le roulet de sa robe vient frôler mes sandales tandis que je la fixe transportée. Je suis prêtre d'Isis et la magie que je pratique étonne les nations. Simon Magus s'agenouille devant moi implorant mon aide et le pharaon tremble quand je m'approche. En Inde, je m'entretiens avec les maîtres et je les fuis en hurlant car leurs révélations sont comme du sel versé sur des blessures à vif. Je perçois tout simultanément, je perçois tout de tous les côtés. Je suis une part de tous les billions qui foisonnent autour de moi. Je perçois la totalité de l'histoire humaine en un seul instant, son passé et son présent. Si je me penche simplement en avant, je vois encore plus loin, toujours plus loin. Je passe à présent par d'étranges courbes et d'étranges angles. Les angles et les courbes se multiplient autour de moi. Je perçois de grands segments du temps à travers des courbes. Il y a un temps incurvé et un temps angulaire. Les êtres qui existent en temps angulaire ne peuvent pénétrer dans le temps incurvé. C'est étrange. Je recule, et je recule toujours. L'homme a disparu de la terre. Des reptiles gigantesques se tapissent sous d'énormes palmes et nagent dans les eaux noires et nauséabondes du lugubre lac. Les reptiles ont disparu à présent. Nul animal ne demeure sur la terre, mais sous les eaux je distingue très bien des formes qui se déplacent avec lenteur au milieu d'une végétation en décomposition. Les formes sont toujours plus simples. Maintenant, ce ne sont plus que des cellules isolées. Tout autour de moi, il y a des angles étranges qui n'ont pas de contrepartie sur la Terre. J'ai effroyablement peur. Il y a un abîme d'existence que l'homme n'a jamais sondé. Je dévisageais Chalmers. Il s'était levé et agitait les bras d'un air désemparé. Je passe par les angles d'un autre monde. J'approche. L'horreur brûlante de tout cela. Chalmers, voulez-vous que j'intervienne ? Il se cacha vivement le visage de la main droite, comme s'il avait voulu exclure une vision insoutenable. Pas encore, pas encore. Je veux voir ce qu'il y a au-delà. Une sueur froide couvrit son front et des spasmes secouèrent ses épaules. Au-delà de la vie, il y a... Son visage devint gris de terreur. Des choses que je ne parviens pas à distinguer. Elles se déplacent lentement et passent par des angles impossibles. C'est alors que je me rendis compte de l'odeur qui régnait dans la pièce. C'était une odeur âcre, indescriptible, si nauséabonde que j'avais du mal à la supporter. J'allai rapidement à la fenêtre et l'ouvris tout grand. Quand je revins auprès de Chalmers et plongeai mon regard dans ses yeux, je faillis m'évanouir. Je crois qu'ils sont sur la voie. Ils se tournent lentement vers moi. Il tremblait de manière horrible. Un instant, il griffa l'air de ses mains, ses jambes plièrent ensuite sous lui et il tomba face contre terre, gémissant, l'écume à la bouche. Je l'observais en silence tandis qu'il se traînait sur le plancher. Ce n'était plus un homme. Ses dents étaient découvertes et la salive lui coulait des coins de la bouche. Chalmers, arrêtez ça! Arrêtez ça tout de suite, vous m'entendez? Comme pour répondre à mon appel, il émit par saccade des sons enroués qui évoquaient l'aboiement d'un chien. Puis il entreprit une sorte de reptation hideuse en rond autour de la chambre. Je me baissai et le saisis aux épaules. Avec violence, avec désespoir, je le secouai. Il tourna la tête et planta ses dents dans mon poignet. J'étais malade d'horreur, mais j'osais le relâcher, de crainte qu'il ne se détruisît dans un paroxysme de rage. « Chalmers, dis-je tout bas, il faut arrêter ça. Il n'y a rien dans cette pièce qui puisse vous faire du mal, vous comprenez ?» Je continuai à le secouer et à l'exhorter, et peu à peu, la folie abandonna son visage. Frissonnant de façon convulsive, il se recroquevilla en une masse grotesque sur le tapis chinois. Je le portai jusqu'au sofa et l'y déposai. Ses traits étaient contractés par la douleur et je savais qu'il luttait en silence pour s'arracher à d'abominables souvenirs. « Du whisky, » marmonna-t-il. « Vous en trouverez un flacon dans le secrétaire, près de la fenêtre. » Quand je lui tendis le flacon, ses doigts l'enserrèrent avec une telle force que les jointures en bleuirent. Ils ont bien failli m'avoir. Il avala le cordial à grande gorgée et son visage reprit peu à peu des couleurs. Cette drogue était infernale. Ce n'était pas la drogue, gémit-il. Il n'y avait plus de lueur insensée dans ses yeux, mais il y avait encore l'air d'un damné. Ils ont senti ma voix dans le temps, se lamenta-t-il. Je suis allé trop loin. À quoi ressemblaient ces îles ? Il se pencha en avant et me saisit le bras. Il tremblait atrocement. Il n'y a pas de mots dans notre langue pour les décrire. On les retrouve un peu dans les symboles du mythe de la chute de l'homme et sous une forme obscène que l'on voit parfois gravée sur d'antiques tablettes. Les Grecs leur avaient donné un nom qui masque leur noirceur foncière. L'arbre, le serpent et la pomme. Ce sont de vagues symboles d'un mystère tout à fait terrifiant. Sa voix s'était élevée, à n'être plus qu'un cri. Franck, un acte terrible, un acte indicible a été commis tout au commencement, avant le temps, l'acte. Et depuis l'acte, il s'était dressé et comme un hystérique faisait des 100 pas dans la pièce. Les actes des morts passent par des angles dans les recoins obscurs du temps. Ils sont affamés et assoiffés. Chalmers, objectai-je. Nous vivons en plein 20e siècle. Ils sont efflanqués et assoiffés. Les chiens de Tyndalos. Chalmers, dois-je appeler un médecin? Un médecin ne peut plus m'aider à présent. Il y a des horreurs de l'âme, et pourtant... Il se cachait le visage entre les mains et gémit. Ils sont réels, Franck. Je les ai vus un effroyable instant. Un instant, je me suis retrouvé de l'autre côté. Je me suis trouvé sur les pâles et gris rivages au-delà du temps et de l'espace. sous une épouvantable lumière, dans un silence qui hurlait. Je les ai vus. Toutes les malfaisances de l'univers étaient rassemblées dans leurs corps efflanqués et affamés. Mais avaient-ils vraiment des corps? Je n'ai fait que les entrevoir, je ne puis en être certain. Mais je les ai entendus souffler. C'est indescriptible, mais en un instant, j'ai senti leur souffle sur mon visage. Ils se sont tournés vers moi et j'ai fui en hurlant. En un bref instant, j'ai fui en hurlant à travers le temps, j'ai fui des quintillions d'années. Ils ont senti ma voix pourtant. Les hommes éveillent en eux des appétits cosmiques. Nous avons échappé, pour un moment, à l'impureté qui nous entoure. Ils ont soif de ce qui est en nous et propre, de ce qui est propre, qui a émergé sans tache de l'acte. Il y a une part en nous qui n'a pas participé à l'acte et c'est ce qu'ils haïssent. N'allez pas imaginer cependant qu'ils soient littéralement, prosaïquement malfaisants. Ils sont au-delà du bien et du mal, tel que nous le connaissons. Ils sont ce qui, tout au commencement, a été séparé de la pureté. Par l'acte, ils sont devenus des corps de la mort, des réceptacles de tout ce qui est impur. Mais ils ne sont pas malfaisants dans le sens que nous donnons à ce mot. Car à l'intérieur des sphères à travers lesquelles ils se déplacent, il n'y a ni pensée, ni morale, ni raison, ni tort, à la manière dont nous le comprenons. Il y a simplement ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Ce qui est impur s'exprime par des angles, ce qui est pur par des courbes. L'homme, ou ce qui est pur en lui, est descendu d'une courbe. Ne riez pas, j'entends cela littéralement. Je me levais et cherchais mon chapeau. Je regrette infiniment pour vous, Chalmers. Mais je n'ai pas l'intention de rester ici pour entendre de telles sottises. Je vais vous envoyer mon docteur. C'est un vieux bonhomme, plein de gentillesse, et il ne se vexera pas si vous lui dites d'aller au diable. J'espère pourtant que vous suivrez son conseil. Une semaine de repos dans un bon établissement spécialisé vous ferait un bien infini. Je l'entendis qui riait comme je descendais l'escalier. Mais son rire était si amer qu'il me fit monter les larmes aux yeux. Quand Chalmers me téléphona le lendemain matin, mon premier mouvement fut de raccrocher aussitôt. Sa requête était si extraordinaire, sa voix chargée d'une hystérie si aiguë que je craignais que toute association ultérieure avec lui n'ait pour résultat l'altération de ma propre santé. Je ne pouvais douter, cependant, de la sincérité de sa détresse. Et quand il fondit en larmes et que je l'entendis sangloter à l'autre bout du fil, je résolus d'accéder à sa requête. « Très bien, » dis-je. « Je vais venir immédiatement et j'apporterai ce plâtre. » En cours de route, je m'arrêtai chez un quincailler et achetai 10 kilos de plâtre. Quand je pénétrai dans l'appartement de mon ami, il était accroupi près de la fenêtre et surveillait le mur d'en face avec un regard que la frayeur rendait fiévreux. Quand il me vit, il se leva et saisit le paquet de plâtre avec une avidité qui me surprit et m'horrifia tout à la fois. Il avait fait enlever tous les meubles et la pièce présentait un aspect désolé. « Il est à peine concevable que nous réussissions à leur barrer le chemin, » s'exclama-t-il. « Mais il nous faudra travailler rapidement. »« Franck, il y a une échelle dans le couloir, apportez-la ici tout de suite. Après, vous irez nous chercher un seau d'eau. »« Pourquoi faire ?» murmurai-je. Il se retourna brusquement, le visage empourpré. « Pour mélanger le plâtre, pauvre idiot » cria-t-il. Pour mélanger le plâtre qui sauvera nos corps et nos âmes d'une contamination indicible. Pour mélanger le plâtre qui sauvera le monde de... Franck, il faut faire en sorte qu'il reste au dehors. Mais qui ? Murmurai-je. Les chiens de Tyndalos, marmonna-t-il. Ils ne peuvent parvenir jusqu'à nous que par des angles. Nous devons éliminer tous les angles de cette pièce. J'enduirai tous les coins, toutes les lézardes. Il faut que nous parvenions à faire ressembler cette pièce à l'intérieur d'une sphère. Je sentis qu'il était inutile de discuter avec lui. J'allais chercher l'échelle. Chalmers mélangea le plâtre, puis, pendant 3 heures, nous travaillâmes. Nous remplîmes les 4 coins du mur, les intersections du plancher et des murs et du plafond. Et nous arrondîmes enfin les angles aigus de la tablette de la fenêtre. « Je demeurerai dans cette pièce jusqu'à ce qu'ils en soient retournés à travers le temps, » affirma-t-il, quand notre tâche fut accomplie. Lorsqu'ils découvriront que la voie les mène à travers les courbes, ils s'en retourneront. Ils s'en retourneront voraces et hargneux et mécontents vers l'impureté qui existait tout au commencement, avant le temps, au-delà de l'espace. Il appuya ses paroles d'un signe de tête et alluma une cigarette. « Je suis bien content
que vous soyez venu m'aider. Vous ne voulez pas voir un médecin après, Chalmers ? Lui dis-je sur un ton de prière. Peut-être. Demain, murmura-t-il. Mais pour le moment, il me faut observer et attendre.
Attendre quoi ?
Le pressai-je. Chalmers sourit d'un air triste. Je sais que vous me croyez fou, me dit-il. Vous avez un esprit perspicace mais prosaïque. Et vous ne pouvez concevoir une entité dont l'existence ne dépend ni de l'énergie ou de la matière. Vous est-il pourtant jamais venu à l'idée, mon ami, que l'énergie et la matière étaient simplement des barrières à la perception, imposées par le temps et l'espace ? Quand on sait, comme moi, que le temps et l'espace sont identiques et qu'ils sont tous deux trompeurs, puisqu'ils ne sont simplement que des manifestations imparfaites d'une réalité supérieure, on ne cherche plus dans le monde visible d'explication au mystère et à la terreur de l'être. Je me levai et me dirigeai vers la porte.
« Pardonnez-moi » s'écria-t-il. « Je ne voulais pas vous offenser. Vous possédez une intelligence supérieure, mais j'en ai moi-même une surhumaine. Il est tout naturel que je me rende compte des limites de votre compréhension.
Téléphonez-moi si vous avez besoin de moi, lui dis-je. Puis je descendis l'escalier, deux marches à la fois. Je vais tout de suite demander à mon docteur de passer chez lui, me dis-je tout bas. Il est atteint de folie furieuse. Son état est désespéré et Dieu seul sait ce qui se passera si quelqu'un ne le prend pas dès maintenant en charge.
On trouvera résumé ci-après deux articles parus dans la Gazette de Patridgeville du 3 juillet 1928. Un tremblement de terre secoue le quartier de la Finance. À 2h, ce matin, une secousse sismique d'une violence inhabituelle a brisé plusieurs vitrines de la Grand Place et a complètement désorganisé les installations des trolleybus et des tramways. La secousse a été ressentie jusque dans les quartiers périphériques et le clocher de la première église baptiste d'Angel Hill s'est complètement effondré. Les pompiers s'efforcent, à l'heure actuelle, de circonscrire le sinistre qui menace de détruire la fabrique de colle de Patridgeville. Le maire s'est engagé à faire ouvrir une enquête. On s'efforce dès maintenant d'établir les responsabilités de cette catastrophe. Un écrivain occulte assassiné par un visiteur inconnu. Horrible crime à la Grand Place. Le mystère entoure la mort d'Alpin Chalmers. À 9h du matin aujourd'hui, le corps d'Alpin Chalmers, écrivain et journaliste, a été découvert dans une pièce vide au-dessus de la bijouterie Smithwich et Isaacs, au 24 de la Grand Place. L'enquête du coroner a établi que la pièce avait été louée et meublée à M. Chalmers le 1er mai et que ce dernier avait lui-même fait enlever les meubles il y a une quinzaine de jours. Chalmers avait écrit plusieurs ouvrages obscurs sur des sujets occultes. Il était membre de la guilde bibliographique. Il demeurait auparavant à New York, dans le quartier de Brooklyn. À 7h du matin, M.L.E. Hancock, qui occupe un appartement sur le même palier que la chambre de Chalmers, dont la maison Smithwick et Isaacs, a senti une odeur particulière au moment où il ouvrait la porte pour laisser entrer son chat et apprendre son numéro de la Gazette de Patridgeville. Il affirme que cette odeur était extrêmement âcre et tout à fait nauséabonde. Il prétend qu'elle était si forte à proximité de la chambre de Chalmers qu'il lui a fallu se boucher le nez pour approcher de cette partie du couloir. Il était sur le point de rentrer chez lui quand l'idée lui vint que Chalmers avait pu oublier par mégarde de fermer le gaz dans sa kitchenette. Très inquiet à cette pensée, il décida de vérifier. Et quand des coups répétés sur la porte de Chalmers n'eurent reçu aucune réponse, il alla le signaler au gardien. Ce dernier ouvrit la porte à l'aide d'un passe-partout, et les deux hommes pénétrèrent rapidement dans la chambre de Chalmers. La chambre était totalement vide de mobilier, et Hancock affirme que lorsqu'il jeta tout d'abord un œil sur le plancher, le cœur lui manqua, tandis que le gardien, sans dire mot, allait jusqu'à la fenêtre ouverte et fixait la maison d'en face pendant 5 bonnes minutes. Chalmers était allongé sur le dos, au centre de la pièce. Il était complètement nu, la poitrine et les bras couverts d'un pus bleuâtre. Sa tête reposait grotesque sur sa poitrine. Elle avait été totalement séparée du corps et les traits en étaient tordus, les chairs lacérées et horriblement mutilées. Il n'y avait nulle part la moindre trace de sang. La chambre avait un aspect des plus surprenants. Les intersections des murs, du plafond et du plancher étaient couvertes d'une épaisse couche de plâtre, mais en certains points, des fragments s'étaient détachés et étaient tombés. Quelqu'un les avait regroupés sur le plancher autour de l'homme assassiné de manière à former un triangle parfait. Plusieurs feuilles de papier jaune noircies par les flammes se trouvaient près du corps. On y voyait des figures et des symboles géométriques fantastiques, outre plusieurs phrases notées à la hâte.
Ces phrases étaient presque illisibles et leur contexture était si absurde qu'elles ne fournissaient aucun indice au sujet de l'auteur du crime. « J'attends et je surveille », avait écrit Chalmers. Je me suis assis près de la fenêtre et je surveille les murs et les plafonds. Je ne crois pas qu'ils puissent m'atteindre, mais je dois me méfier des Doyles. Peut-être viendront-ils en aide et ils pourront passer par les cercles écarlates. Les Grecs connaissaient un moyen d'empêcher cela. Il est bien dommage que nous ayons tant oublié. Sur un autre feuillet, le plus noirci des 7 ou 8 fragments de papier retrouvés par le brigadier détective Douglas, il avait griffonné les phrases suivantes. Grand Dieu, le plâtre tombe. Un choc terrible a ébranlé le plâtre et voilà qu'il tombe. Un tremblement de terre peut-être. Je n'aurais jamais pu prévoir cela. Tout s'assombrit dans la pièce. Il faut que je téléphone à Frank. Mais arrivera-t-il ici à temps? Je vais essayer de réciter la formule d'Einstein. Mon Dieu, ils sont en train de passer et ils passent. La fumée sort à flots des angles des murs. Leur langue. Selon l'opinion du brigadier détective Douglas, Chalmers a été empoisonné par un produit chimique inconnu. Il a envoyé des prélèvements de l'étrange boue bleue retrouvée sur les corps de Chalmers au laboratoire chimique de Patridgeville. Il espère que le résultat de l'analyse jettera une lumière nouvelle sur l'un des crimes les plus mystérieux de ces dernières années. Il est établi que Chalmers a reçu quelqu'un dans la soirée qui précédait le tremblement de terre, car son voisin a distinctement perçu une conversation tenue à voix basse dans sa chambre au moment où il passait devant la porte pour se diriger vers l'escalier. Les soupçons se portent avant tout sur ce visiteur inconnu, et la police s'efforce assidûment de découvrir son identité. Rapport de James Morton, chimiste et bactériologiste. Cher Monsieur Douglas, le fluide qui m'a été adressé à des fins d'analyse est le plus singulier qu'il m'ait été donné d'examiner. Il ressemble à du protoplasme vivant, bien qu'il soit dépourvu de certaines substances particulières connues sous le nom d'enzymes. Les enzymes catalysent les réactions chimiques qui se produisent dans les cellules vivantes, et quand une cellule meurt, elles interviennent pour la désintégrer par hydrolyse. Sans les enzymes, le protoplasme posséderait une vitalité persistante, c'est-à-dire l'immortalité. Les enzymes sont, pour ainsi dire, des composantes négatives de l'organisme unicellulaire base de toute vie. Qu'il soit possible pour la matière vivante d'exister sans les enzymes est nié avec la dernière énergie par les biologistes. Cependant, la substance que vous m'avez adressée est vivante, et ses corps indispensables lui font défaut. Mon Dieu, monsieur, vous rendez-vous compte des étonnantes perspectives nouvelles que cela va ouvrir. Extrait de l'observateur secret du regretté Alpin Chalmers. Et si, parallèle à la vie que nous connaissons, il existait une autre vie qui ne meurt pas, à laquelle il manque les éléments qui détruisent notre vie. Peut-être existe-t-il dans une dimension une force différente de celle qui engendre notre vie. Peut-être cette force dégage-t-elle de l'énergie ou quelque chose de comparable à l'énergie, qui puisse passer de la dimension inconnue où elle se trouve pour créer une nouvelle forme de vie cellulaire dans notre dimension. Nul ne sait si une nouvelle vie cellulaire de cette sorte existe dans notre dimension, et pourtant, j'ai vu ces manifestations. Je me suis entretenu avec ces dernières. Dans ma chambre, la nuit, je me suis entretenu avec les Doyles. Et au cours de mes rêves, j'ai vu leur créateur. Je me suis tenu sur les rivages incertains, au-delà du temps et de la matière, et je l'ai vu. Il passe par d'étranges courbes et d'impossibles angles. Un jour, je partirai en voyage à travers le temps, et je le rencontrerai face à face.